Votre podcast Swing vous est présenté par Strixon et ses balles Z-Star, Z-Star XV et Z-Star Diamond. Victorieuse sur tous les circuits, elle performe comme vous l'exigez. Brooks Koepka, Hideki Matsuyama ou encore Shane Lowry les utilisent. Alors pourquoi pas vous ? Les balles Z-Star de Strixon sont disponibles dans plus de 600 points de vente en France.
Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 sur Free, 193 sur Bouygues, la Bbox et puis bientôt sur tous vos appareils connectés Samsung. On va parler évidemment cette semaine de la victoire de Mathieu Pavon sur le Tour européen et j'ai avec moi pour animer cette émission Arnaud Thiouze de Journal du Golf. Salut Arnaud.
Salut JP.
Comment ça va ?
Bah ça va bien.
Et Jean-Pascal Lacoste, on est ravi de te recevoir dans ce podcast, le podcast Swing.
Merci beaucoup.
Ça va ?
Ça va ? Ça va ?
La forme ?
Ça va,
tout va bien.
Salut.
Très bien, impeccable,
on est bien.
C'est génial. C'est super. Et on va parler justement de cette victoire qui nous donne le sourire de Mathieu Pavon. On l'attendait cette victoire, il l'attendait, mais nous aussi,
parce que
lui, mais nous aussi, parce qu'on sentait que depuis quelques années, il tournait autour, notamment à l'Open d'Espagne l'année dernière, où il avait fini deuxième. Une victoire, on l'a vu, en larmes, Mathieu Pavon. Et toi aussi, je crois, Jean-Pascal.
Mais moi, j'étais.
Ouais, tu le connais bien, il faut le dire.
Ouais, c'est un copain, donc ça m'a encore un peu pris un peu plus aux tripes. Mais il avait besoin de cette victoire. Ça fait longtemps qu'il tournait. Autour, vous voyez, hein, c'est peut-être pour ça, je pense, qu'il y a eu autant d'émotions dans cette victoire.
Oui, parce que c'est aussi une côté famille, je crois que son grand-père est de la région.
Ouais.
Il y avait tout un mix chez Mathieu.
Je crois qu'il y a un tout, puis je crois que tu vas nous confirmer, mais je crois qu'il y a aussi, depuis le temps qu'il l'attend, je crois que ça y est.
Mais c'est toi qui vas nous
on
le confirmer.
On a percé l'abcès.
Tu as dîné avec lui
oui, et... oui, il est venu à la maison, mais c'était avant qu'il gagne. Et il voulait absolument. Tout le repas était autour de ça. Alors, on a parlé bien sûr de plein d'autres choses, parce que c'est pour on parle d'autres choses que golf, mais il me disait, mais il me manque que ça.
C'était obsessionnel, c'est ben forcément.
Ouais, on le voit, et puis franchement, on le voit dans ses yeux. Il avait besoin, il faut juste que j'ai. C'est cette victoire, mais il la sentait arriver. C'est marrant, hein, parce que c'est peut-être les sportifs. Mais il dit, il me faut ça, mais ça va venir, il ne faut pas que je sorte de mon protocole, tu vois, de mon tac, tac, tac. Il a écrit son petit schéma, son petit chemin, et il s'y est tenu, quoi.
Il n'a pas beaucoup gagné, enfin, il n'avait pas gagné sur le Tour européen, il n'avait pas gagné sur le Challenge Tour non plus, il n'avait pas gagné depuis l'Alps Tour. On le sait, de toute façon, en golf, on ne gagne pas beaucoup. Lui, il avait. Pas dire encore moins gagné que les autres, mais en tout cas, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné. Il n'avait même pas gagné sur la deuxième division, encore moins sur la première. Donc forcément, il y avait un manque, même s'il gardait sa carte chaque année, même si on sentait une progression chez lui. C'est sûr qu'il y avait ce manque, il était passé assez souvent de justesse à côté. Ben voilà, là c'est fait. Et de quelle façon c'était fabuleux à suivre
tout le week-end. Surtout Mathieu Pavon, c'est pas un joueur qui sort, on va dire, du moule classique des joueurs qu'on peut avoir en France. Il a battu les Paul France.
Benjamin Cadieu nous l'a souvent dit à ce micro, à ce podcast. C'est vrai qu'il était totalement en dehors, enfin totalement, faut pas exagérer, mais il était en dehors des radars. Il n'était pas dans les meilleurs amateurs français et il s'est construit étape par étape. Et c'est ça aussi qui est très encourageant. On en parlait, peut-être qu'on y reviendra. C'est ça aussi qui est encourageant, c'est qu'on se dit que ça ne va pas être une fin en soi pour lui, il progresse et ça, je pense que ça va lui donner encore plus confiance dans ce qu'il fait, encore plus confiance dans son travail et il ne va pas s'arrêter là. On sait que le golf, c'est un sport à maturation, c'était. Les jeunes générations ont prouvé que c'était autre chose, mais peut-être que Mathieu Pavon, à l'image d'un Guy Forget en tennis, voilà, c'est peut-être un peu plus tard. Et je pense que le meilleur est à venir. Il a déjà fait des bonnes performances en Grand Chelem, ou en tout cas des bons tours. Il tournait autour sur le Tour européen. On peut être sûr que dorénavant, déjà, il y aura peut-être le PGA Tour l'année prochaine, pourquoi pas, on peut y croire. Ouais. Il va falloir une très bonne fin de saison, mais pourquoi
pas. On rappelle, il reste deux tournois de la saison régulière et la finale à Dubaï, où là, on peut gagner beaucoup de points. Donc rien n'est fait pour Mathieu Pavon.
Et puis il joue bien. Et puis encore une fois, on peut penser que c'est un déclic. Donc maintenant, voilà, il a plus la victoire à laquelle penser. Ça, c'est fait. Et ben maintenant, il n'y a que du bonus à aller chercher sur cette fin de saison et puis sur les années à venir.
Et puis, c'est une belle fin de saison parce que si on regarde sur le Open d'Espagne, on avait quand même pas mal de Français qui ont bien fini, que ce soit Guerrier, Langasque. Enfin, je veux dire, ça a été. C'était pas mal quand même pour les
Lorenzo Vera.
Lorenzo Vera aussi qui a fait une belle semaine. Moi, je trouve que c'est de plus en plus encourageant. Quoi.
Et Lorenzo Vera, d'ailleurs, qui a fait un grand pas, on va dire, pour la conservation des droits de jeu. Hein, maintenant, il était un grand pas.
Ouais, il en avait besoin. Il en avait besoin. Là, il est dans la limite. Voilà, il faut qu'il verrouille. On sait très bien qu'on en connaît des histoires. Hein. Malheureusement, on peut être juste en dessous de la limite et c'est pas fin de carrière. Mais bon, en tout cas, ça peut tout changer. Donc,
mais Mathieu aussi doit relancer pour le PGA, je crois. Aussi.
Et Mathieu aussi, il faut qu'il. Non, pas du tout. Il est même pas dedans. Comme Romain Langasque, comme Julien Guerrier, qui n'est pas très loin non plus aussi. Voilà, ils vont se battre, à la limite, tant mieux. Il n'y aura peut-être pas les trois, mais enfin, s'il y en avait un, voire deux, ce serait fabuleux. Quoi.
Sachant qu'il y a déjà Paul Barjon qui lui a validé son ticket.
Et Victor Pérez.
Ouais. Voilà.
Qui aussi, sauf.
On voit pas comment.
C'est Philippe Chassepeau qu'on salue au passage, qui surveille ça de près. Il dit ouais, je pense que c'est toujours pas fait. Bon, je pense que c'est fait quand même pour Victor Pérez.
Il est sixième, hein, Victor Pérez. Donc ouais. Ça sent bon quand même.
Ouais, après, il reste des gros tournois, mais bon, c'est vrai qu'il faudrait vraiment un enchaînement que tout le monde lui passe devant. Quoi.
Voilà. Allez, justement, on va revenir avec Mathieu Pavon, que Benjamin Cadieux a eu la chance d'avoir juste après sa victoire, et il est encore sous le coup d'émotion, Mathieu Pavon. On l'écoute.
Ça a été une journée assez éprouvante. J'ai eu pas mal de mal à trouver le sommeil. Beaucoup de choses qui passent dans la tête, beaucoup de pensées, beaucoup de très très bons souvenirs. Une nuit assez courte, tu t'es réveillé je pense vers 8h ce matin, tu te réveilles et puis t'es vainqueur sur le tour européen et ça fait énormément de bien. Ouais, bien sûr, je l'attendais, j'avais eu quelques bons résultats en tournoi ces dernières années. Voilà, j'étais passé à côté quand même quelques fois. C'était une problématique qui était revenue quand même dont on avait discuté avec mon équipe, faire des changements peut-être sur ma préparation mentale. Voilà, il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Voilà, malheureusement, plus t'as d'échecs, plus tu te poses de questions. Pourquoi ça tombe pas? Qu'est-ce que je fais pas de bien? Qu'est-ce que je peux mieux faire? Donc voilà, c'est des questions qui se sont beaucoup posées. Et voilà. Le but du jeu, ça a été vraiment d'analyser au mieux ces contre-performances des dernières années pour mieux préparer la future victoire.
Mais donc, ça a été quoi les conséquences tirées, les enseignements tirés de ces précédentes années pour mener à une victoire de bout en bout à l'Open d'Espagne?
C'est des choses très simples, comme je pense tous les golfeurs qui ont déjà gagné deux tournois vont pouvoir te répondre. C'est vraiment essayer de se garder dans le moment présent, de faire des choses très simples, de rester centré sur soi-même. Je pense que c'est vraiment la clé de la réussite. Voilà. Après moi, ce que j'ai amené en plus sur ce tournoi que j'avais pas fait sur les autres contre-performances, c'était voilà, j'avais des notes personnelles qui étaient marquées dans mon carnet. J'ai vraiment ciblé pourquoi j'étais là, pourquoi je voulais gagner. Et voilà. Et ces notes-là, je les ai mises dans mon carnet, je les ai lues avant chaque coup, et ça permettait de me recentrer vraiment sur pourquoi j'étais là et ce que je devais faire.
C'est quoi le meilleur quand on gagne un tournoi du circuit européen, des places au ranking, le ranking mondial, un chèque qui tombe aussi, des exemptions qui tombent?
Moi, ce que j'en retirerai le plus, c'est ces émotions. J'ai la chance d'avoir un papa qui a connu le très haut niveau dans le foot, qui à la fin de sa carrière m'a clairement dit que les moments qu'on pouvait vivre sur un terrain de foot ou un terrain de golf pour ma part, c'est des choses que peu de personnes peuvent comprendre et qui ne se retrouvent probablement jamais en dehors des terrains. Et voilà, cette montée d'adrénaline, cette effervescence, cette joie, ce bonheur, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui va même au-delà de ces exemptions et de cet argent, même si bien sûr, on ne va pas se mentir, ça compte énormément de gagner tout ça. Ouais.
Mathieu, on a la chance de te voir en visio depuis toutes ces années. Je ne t'ai jamais vu aussi marqué, aussi fatigué, aussi ouais. Dans cet état de fatigue. Je creuse là-dessus. Comment tu te sens là, alors qu'on est, on est lundi après-midi et que tu viens de faire la route, je crois, entre Madrid et Soto Grande pour le prochain tournoi? C'est un état que tu as déjà connu, cet état de bien-être et de fatigue à la fois?
Ouais, j'ai connu quand j'avais fait quand même les bons résultats l'année dernière, clairement, quand je perds contre Jon Rahm à l'Open d'Espagne. C'est un peu le même style, du mal à dormir le soir, réveillé tôt, une nuit un peu mouvementée. Donc, la fatigue, elle s'accumule. Je pense que c'est vraiment... tout le jus qu'on a utilisé toute la semaine qui voilà, c'est la redescente quoi, c'est un peu comme une drogue. On a une telle montée d'adrénaline, plein de choses à gérer parce que dans la tête ça travaille que voilà, le lendemain du tournoi c'est vraiment la redescente, c'est vraiment le relâchement, le lâcher prise, et je pense que le corps le sait et te le fait bien sentir.
Une victoire de bout en bout, wire to wire, comme disent les Anglais. Est-ce que ça rajoute quelque chose au gâteau qui est la victoire?
C'est pas ce que j'en retiendrai forcément de ma semaine. Moi, le but du jeu, c'est de m'aligner sur chaque tournoi et d'essayer de, de les gagner. Voilà, l'objectif a été contrat rempli la semaine dernière. Après l'avoir mené de bout en bout, c'est vraiment, comme tu disais, c'est un peu la cerise sur le gâteau.
Quel message ou quelle tape dans le dos t'a fait le plus plaisir après la victoire, moins que ce soit tout bêtement la douche de champagne sur le green du 18?
Cette douche de champagne sur le 18 qui est un peu, je pense, la marque de fabrique de notre célébration chez les Français. Il n'y a rien de plus jouissif que ça. C'était vraiment un moment incroyable. Le partager en plus avec mes amis, c'est vraiment... On est une famille, hein. on est beaucoup de joueurs français. On est ensemble sur la route toutes les semaines. Je passe plus de temps avec eux qu'avec ma femme et mon fils. Donc c'est pour dire à quel point pouvoir célébrer cette victoire avec eux me touche.
Être entre guillemets enfin du bon côté de la bouteille de champagne.
Honnêtement, ça va très très vite. Ça va même beaucoup trop vite. Pour moi, je perds un peu pied à ce moment-là. Je sais pas trop où je suis. Je sais pas trop où sont mes partenaires de jeu que je suis presque de remercier sur le green du 18. C'est un moment unique et à la fois un peu flou. Donc c'est un sentiment assez spécial. Je t'avoue que j'ai dû regarder une bonne dizaine de fois ce dernier putt au 18 avec la célébration pour vraiment bien cerner qui était à ma droite, à ma gauche, où je me situais. J'étais un peu perdu dans le temps et dans l'espace.
Le putting, on en a déjà beaucoup parlé ensemble. Passé à peu près de la 120e place européenne en 2 ans au nombre de putts par tour. Là, t'es dans le top 15 européen. T'as fini premier au stroke gain putting cette semaine. Est-ce que le putting a été le facteur X de ta semaine en Espagne?
Oui, clairement. Le putter, ça te permet de garder du momentum. Un bon putt rentré pour le par, suivi d'un birdie sur le trou d'après. Ça, c'est vraiment des momentum qui sont clés dans des parties. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine, clairement, putting. Je le vois très bien sur mon dernier tour. Un coup assez pauvre au trou numéro 9. Un chip un peu long, un putt de 4 mètres qui tombe, et puis derrière, tout de suite, un coup de wedge donné au 10. Voilà, c'est des moments clés à choper dans une partie, et c'est clairement grâce à un très bon putting cette semaine que j'ai pu garder aussi cette bonne attitude et cette bonne dynamique.
Sans ces progrès au putting, notamment avec John Carlsen, ton coach de putting depuis quelques mois, est-ce que ça aurait été possible ce 64 le dimanche et cette victoire aussi nette en Espagne?
Non, clairement, parce que si j'avais, entre guillemets, des appréhensions sur quelque chose, ce dernier tour, c'était le putter. Voilà, il faut putter pour gagner un dimanche. Je pense qu'il y a tous les joueurs seront un peu d'accord avec ça. Voilà, je ne sais pas comment physiquement j'allais réagir à cette pression au niveau du putter. C'était beaucoup, j'avais pas mal d'a priori dessus. Et puis au final, voilà, ça fait. Je travaille énormément mon putting avec mon coach Yon. C'est vraiment des programmes d'entraînement qui sont à faire tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis de chaque tournoi, plus en dehors de tournoi. Je pense qu'on a bien, j'ai bien cerné aussi son approche très très simplifiée du putting, avec vraiment des jeux d'alignement, des jeux de sortie de balle et beaucoup de putts à moins de 10 feet. Et voilà, tout ce travail-là aboutit à une super semaine de putting et surtout très 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 solide sous pression.
En termes de solidité, ton swing a toujours été réputé. On va pas re-rentrer dans les stades, mais tu touches beaucoup de green, tu touches beaucoup de fairway. Aucun souci de distance, t'es au-dessus des 300 yards. Ça reste néanmoins ta grande force, cette constance. Quel regard tu portes sur l'évolution de ton swing, de ta frappe de balle depuis que tu es sur le tour, depuis 6-7 ans?
Oui, c'est ça. Je m'entraînais, moi, avec Benoît Ducolombier sur mes premières années professionnelles jusqu'à mon arrêt sur le tour européen. Benoît m'avait complètement bâti mon swing, m'avait vraiment porté jusqu'au plus haut niveau. J'avais certains coups que je manquais à gauche qui ne me plaisaient pas. Au bout d'un moment dans une carrière, il y a des décisions qui doivent être prises. Je pensais que techniquement mon swing était perfectible. Je suis allé voir Jamie Goff, qui est assez réputé pour ce sens de jeu qui est le fade, tout de suite avec des idées en tête de ma part de vouloir limiter ce côté gauche et d'avoir une balle qui travaille beaucoup de gauche à droite. Et voilà, on a mis en place des exercices très simples, encore une fois, comme au putting avec mon coach. On a mis des exercices à répéter tous les jours, pas besoin de faire des heures et des heures de balle avec la même chose, mais des exercices simples à répéter tous les jours, à vraiment consolider ce swing et essayer d'en tirer un maximum de régularité. Et voilà, ces deux dernières années, même ces trois dernières années sur le Tour européen, en termes de cut manqué, je pense que le ratio est bien meilleur que mes deux, trois premières années sur le Tour européen.
Tu as voulu rester dans le présent pour utiliser tes mots avec ton caddie, donc pour résister à cette pression du leaderboard pendant quatre tours. Quelle clé tu as pour rester dans l'instant ?
Comme je disais, il y a quelque chose que j'ai changé ce dimanche. Voilà, les autres fois, je n'avais jamais été vraiment leader au départ du 1, le dernier tour, à part quand j'ai perdu, je crois, contre Thomas Peters au Portugal. J'en ai appris des choses. Je me suis vraiment mis des phrases un peu clés dans mon carnet, des choses qui me parlent, des choses qui me permettent, encore une fois, comme je disais, de me recentrer sur moi-même, de savoir.
On peut les connaître, ces phrases, ou...
Non, je peux pas les dire. Elles sont personnelles. Mais c'est des choses de, voilà, pourquoi je suis là, pourquoi je veux gagner, et voilà, ça me donnait, ce qu'on peut dire en anglais, une guideline que je gardais avec moi tout le long du parcours et que je relisais avant chaque coup.
Maintenant, donc, au ranking, donc, du 20e de la race, mais aussi tout proche de ce fameux top 10 d'exemption pour le PGA Tour l'an prochain. À quoi tu as la tête?
Mon focus, il reste sur des objectifs qui avaient été un peu déterminants au début d'année. Voilà, comme j'expliquais à mon papa au téléphone plus tôt, j'ai des cases à cocher, des objectifs qui ont été définis. J'essaie juste de remplir ces cases-là. Voilà, clairement, ce serait un rêve pour moi d'aller jouer sur le PGA Tour l'année prochaine. Après, ce n'était pas l'objectif que j'avais coché, que j'avais envie de cocher cette année. J'essaie d'avoir une progression assez constante, mais sans sauter non plus sans vraiment sauter de palier. J'ai jamais fait top 30 de la race ou Dubaï. Donc, clairement, c'était un objectif pour moi cette année de m'élever à ce rang-là. Voilà. Maintenant, si j'arrive à attraper un spot pour ce PGA Tour, ce sera juste exceptionnel.
Et pour finir, quel est le programme maintenant jusqu'à la finale de la race?
S'auto-grandir cette semaine. Et après, je sais pas encore si je vais aller au Qatar. On va prendre la décision, je pense, dans les prochains jours avec mon staff. Et après, ça va s'enchaîner vite. Une semaine de repos, le Netbank. Et ce sera la finale de la Race to Dubai. Après, je recommencerai l'année prochaine soit sur le PGA Tour, en croisant les doigts. Soit sinon, mon premier tournoi, ce sera à l'île Maurice, parce que c'est vraiment un tournoi que j'apprécie et où j'adore aller.
Juste un mot pour finir. Les JO, là, tu es plus que jamais dans la course pour les deux spots français. Est-ce que tu as ça dans un coin de la tête encore plus depuis cette victoire?
Oui, j'y pense. Bien sûr, les JO, ce serait une fierté de me retrouver là-bas et de représenter mon pays. Après, ce qui est très drôle, c'est que en fait, moi, ce qui me ferait le plus rêver, en fait, c'est de voir tous ces athlètes briller au plus haut niveau dans toutes ces disciplines que j'ai pas la chance de voir au quotidien, de côtoyer ces athlètes. C'est vraiment cette expérience-là, moi, qui me fait rêver de pouvoir m'approcher de ces grands, grands champions. Après, voilà, encore une fois, les JO, c'est un rêve. Y aller, essayer de gagner une médaille, pourquoi pas.
Alors messieurs, ça fait plaisir de le voir. Mathieu Pavon, encore sur son nuage, il le dit, hein, gagner, c'est une drogue. Et on le comprend, hein, parce que la sensation qu'on doit avoir quand on rentre ce putt...
Ouais, qu'on doit avoir, hein, parce que nous, on la connaît
pas. Nous, on la connaît pas. On la connaît pas, ça doit être incroyable.
Ouais, moi je pense surtout que moi, de mon côté, par exemple, la défaite est une drogue, hein, parce qu'on s'y habitue beaucoup à la défaite, souvent. Et mais pour être sérieux, ouais, je crois que c'est... Et puis, il attendait depuis tellement longtemps. Je pense que c'est aussi ça qui a décuplé peut-être là, aujourd'hui, qu'ils disent c'est une drogue, parce que ça fait longtemps qu'il attendait ça. Donc, moi, j'espère que cette bonne drogue, il va s'y habituer et il va répéter ça le plus souvent possible, parce qu'il il nous a fait rêver pendant une semaine, il nous fait rêver, mais là, je suis sûr qu'il peut réitérer ça très vite. Et...
Je me souviens aussi d'Antoine Rosner qui parlait, parce qu'il en a, il en a ouais, trois ouais, au compteur, je crois. Ouais. Et il en avait gagné une un peu comme ça aussi, en partant en tête. Et il disait que c'était quasiment plus dur que de revenir de l'arrière.
De conserver la tête.
De conserver la tête. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il a été en tête depuis le jeudi. Il l'a conservé jusqu'au bout.
En sortant le dimanche, une grosse carte.
En sortant une grosse carte. Ouais. Mais il a été tout le temps devant, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, nerveusement, encore une fois, c'est ce qu'ils disent. Moi, j'en sais rien. Mais il n'y aurait pas plus dur, apparemment, que de faire la course en tête et de ne pas se laisser rattraper. Donc, continuer à être offensif. Enfin, voilà, ça demande un effort mental apparemment surhumain, donc on peut comprendre son émotion après, et puis même son émotion encore 24 heures après, il relâche tout, quoi.
Il a dû bien dormir lundi, ça c'est sûr, je pense.
Tu l'as eu depuis ou pas ?
Il dit qu'il y a quand même le rugby qui a gâché un peu la fête, mais bon, après, il a eu du mal à trouver le sommeil.
Je l'ai eu par texto vite fait par WhatsApp, et il était, c'était deux mots vite fait, comme j'ai félicité encore, etc., mais je pense qu'il en a eu des millions, je pense qu'il faut le... Qui c'est qui a laissé son
portail, téléphone qui sonne par là-bas, je crois. Par là-bas.
Vous ne voyez pas les gens qui sont derrière. Mais non, je crois qu'il il a surtout répondu à... C'est pas moi. Non, c'est pas moi.
C'est qui? Je sais pas.
Mais c'est moi.
C'est ça. Oh là là. Ah là là. J'espère que ça.
Vous coupez pas ça. On va pas garder.
Vous coupez ça, évidemment.
Non, on coupe pas. Saucissa, le.
Bah, bien
voilà,
sûr.
C'est réel, c'est bien, à l'amande. Qu'est-ce que vous bouffez à minuit? Vous invitez à bouffer. Non, mais je pense qu'il a eu tellement de. Je pense que sa victoire, elle était tellement importante, comme je pense tous les messages qu'il a pu avoir. Moi, j'ai même pas voulu l'appeler. J'ai dit,
pour le laisser tranquille, pour laisser dans son truc, quoi.
On s'appellera. Moi, j'ai fait un message à Rosner pour lui dire si aujourd'hui, tu vois, il voulait jouer parce que j'étais à Paris. Il me dit non, je vais en Angleterre en aller-retour. Tu vois, je me suis dit, bon, il y en a peut-être deux ou trois qui veulent aller jouer cet après-midi. Mais je lui laisse. Je pense qu'il faut les laisser aussi, tu vois. Profiter, les laisser kiffer. Et puis voilà, et quand ils veulent t'appeler, ils t'appellent. Et alors, on en parle. Je pense qu'il ne faut pas non plus les saouler, tu vois.
Parce que c'est tellement éphémère, finalement, ce côté de victoire. Après. Voilà, c'est le retour aux choses sérieuses qui redémarre.
Non, mais
en plus,
après, c'est nous, notre boulot de nous, journalistes, nous, de poser des questions. Après, c'est sûr que les potes, il faut gérer la carrière des sportifs et ne pas savoir être trop intrusif. C'est sûr que c'est important aussi.
Mais un journaliste aussi,
l'entourage, quoi.
Vous le faites sans être intrusif. Je crois que c'est un vrai
job. De toute façon, on leur demande, on leur demande toujours, toujours leur avis.
Bien sûr.
On les embête toujours plus après les tournois qu'avant, effectivement. C'est toujours pareil, priorité à la performance. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'un joueur qui ne va pas être performant.
Alors messieurs, pour décortiquer cette victoire, je vous propose d'aller voir Louis Cohen-Boyer, qu'on est allé voir au Golfe du Sar à Lille. Il va nous parler justement de cette victoire de Mathieu Pavon, mais vu du côté des stats. Et c'est très intéressant. On regarde.
Nous sommes donc allés fouiller dans les statistiques de l'European Tour qui nous sont proposées, qui sont ouvertes à tous. Et on a retenu trois statistiques très intéressantes. La première, le driving, en second, les attaques de green, et pour finir, le putting. Ce qu'on a pu remarquer par rapport à la très bonne place de 2022 de Mathieu, où il avait fini deuxième derrière John Rahm, c'est qu'il avait été en première position au driving. Et imaginez-vous, cette année, 2023, il a gagné, alors qu'il est passé en 66e position. Il a donc été parfaitement dans la moyenne du champ sur ses mises en jeu. Il n'a pas gagné de coup, il n'en a pas perdu, il a juste été, entre guillemets, moyen. Maintenant, on passe aux attaques de green. En 2022, il a été en 19e position. Donc très belle semaine, ce qui lui a permis, enfin au niveau des fers, ce qui lui a permis de finir deuxième, encore une fois, je le répète, derrière John Rahm. Cette année, 32e position. Sur les fers, il n'a pas été plus performant en 2023 qu'en 2022. Et pourtant, il a réussi à gagner 4 coups sur la semaine. Vous en doutez, du coup, la dernière chose qui nous reste, c'est quoi? Et la raison pour laquelle il a gagné la semaine dernière, c'est le putting. Au putting, en 2022, il avait fini à la 31e position et cette année, il a fini à la première position. Quasiment un coup et demi par partie qui a été gagné au putting entre 2022 et 2023 pour Mathieu Pavon. Ce n'est pas toujours le cas sur certaines victoires. De temps en temps, c'est aussi le driving ou les jeux de fer, mais cette fois-ci, ça a vraiment été le putting.
Donc voilà, messieurs, on le voit, hein, c'est vraiment au putting où il a vraiment passé un cap, Mathieu, et c'est là avec ça qu'il a construit sa victoire. C'est bluffant, quoi, quand on voit ça.
Alors moi, je retiens deux choses. Ça veut bien dire un truc, c'est au grand jeu la gloire, au petit jeu la victoire. Ça, j'en reste persuadé. Parce qu'on dit toujours, il faut mettre des gros parpaings au drive. Ce qui compte, c'est le putting. Donc voilà, ça prouve bien les choses. Mais ce qui est incroyable, c'est que moi, je trouve qu'il n'a il a pas déjoué. Il n'a pas joué sans retenue. Je ne sais plus si c'est au 15. Je me dis, oh mince, il est un peu long, il a un pote qui part en droite, gauche, qui descend. Putain, il y va pour birdie. Enfin, c'était, il a été toujours dans l'attaque, il a eu la réussite, mais il a joué comme le jeudi, quoi. Et franchement, son putter, il était chaud. Enfin, c'était
Il vient d'en changer. Hein. Il a dit avant le tournoi, il l'a changé à l'Open d'Arcachon, il a changé de driver aussi. Bah, on sait que de temps en temps, hein, le golf, c'est tellement affaire de sensations sur le moment ou de petits réglages. Ben voilà, ça a bien marché et de confiance.
Ouais,
et
puis son association avec son nouveau coach de putting, John Karnstein.
Et puis son association avec son nouveau caddie aussi.
Caddie, ouais.
Voilà, c'est plein de choses comme ça, c'est toujours pareil. Un putter, vous prenez un nouveau, ben vous n'avez pas encore raté avec celui-là. Ben, tant que vous réussissez, il vous convient et vous le gardez. Après, on sait que voilà, il y a des joueurs comme Arnold Palmer qu'on en a eu des dizaines, voire des centaines des putters. Il y en a qui gardent le même toute leur carrière, c'est à chacun de voir. En tout cas, là, c'est sûr que ça a bien fonctionné. Après, ce que disait Mathieu aussi, il avait déjà bien joué, vous disiez deuxième l'année dernière, là. Il a fait que des scores en dessous de 70 sur ses 6 derniers trous là-bas. Il disait aussi que c'était quand même un parcours pour les faders, hein, que c'était aussi quand même...
qui correspond à son jeu.
Voilà, qui correspond à son jeu en fade. Il pouvait s'appuyer à chaque fois bien au driving. Après, bah, vous avez des fers un peu plus courts. Et puis, bon.
Après, il faut rentrer les potes aussi.
Et après, si vous êtes chaud au putting, c'est sûr que là, ça fait, encore une fois, la combinaison parfaite. Bah, 4 points d'avance. Il y avait quand même du beau monde. Hein. Il y avait du Yon Ram dans le champ. Il y avait quand même des sacrés joueurs. Donc... Non, chapeau bas, ça fait plaisir à voir. Et encore une fois, moi, ça fait longtemps que j'entends que les Français craquent le dimanche. Ben, encore une fois, ils ont prouvé, il faut le prouver à chaque fois, malheureusement, mais ils ont encore prouvé, parce qu'il y a eu Mathieu Pavon, mais on l'a dit, il y a eu Mike, il y a eu Romain Langas, il y a eu Julien Guerrier. Voilà, les Français ne craquent pas plus que les autres le dimanche. Sauf que, comme on est Français, on regarde leur performance à eux, mais si vous regardiez les autres, il y en a autant qui craquent le dimanche que les Français.
Oui, donc, bien sûr.
Peut-être qu'on va arrêter de nous bassiner. Bon, ça va être encore pendant 3 mois ou 6 mois. Après, ça repartira. Voilà. Les Français sont aussi bons que les autres le dimanche. Voilà.
Le putting, c'est quelque chose que tu travailles dans ton jeu plus que le reste ou faudrait plus que tu travailles dessus?
Alors, on bosse jamais assez le putting. Ouais. Mais Jean-Ignace Mouika me dit toujours, coach, ouais. Si tu fais, voilà, si je fais 2 heures de practice, il faut faire 4 heures de putting. Si tu fais 1 heure de practice, tu fais 2 heures de putting. Il faut toujours faire plus au putting parce que c'est là où on va y arriver au green, mais il faut pas en faire 3-4. Donc je voilà, moi je suis un peu de l'école où on dit voilà, c'est mets-la en piste et putte bien et tu y arriveras. Alors 200 mètres, 300 mètres, le tout c'est d'être en piste et de bien putter et le score tombera. Voilà.
Alors en tout cas, quand on regarde le classement de cette race to Dubaï, il y a quelques tournois de la fin, on l'a vu, hein, Victor Pérez qui est 6e, Romain Langasque qui est aux alentours de la 20e place, Mathieu Pavon aussi.
Julien Guerrier aussi,
Paul Barjon qui a déjà sa carte sur le PGA Tour. On peut avoir un bon clan français l'année prochaine si tout se goupille bien sur le PGA Tour, ça pourrait être canon.
C'est fantastique. Bah,
c'est bien parce que c'est sûr que regarder le PGA Tour, c'est fabuleux, mais il n'y a pas beaucoup de drapeaux tricolores, donc ouais, ce serait bien si vous voyez.
Il y en a jamais eu, enfin il y en a eu très peu.
Il y en a eu très peu, non, mais il y avait Martin Trainer par exemple, Victor Pérez y a été un peu, Victor Dubuisson y a été un peu, mais je le rappelais, je crois que c'était la semaine dernière ici, un seul joueur français dans l'histoire a gardé. Sa carte sur le PGA Tour, c'est Jean Van Noël. Donc voilà, ouais. on n'est quand même pas une domination française sur le PGA Tour. Enfin non, voilà, on n'a jamais, à part Van Noël, encore une fois, on n'a jamais gagné sa carte. On n'a jamais été performant aux États-Unis. Donc oui, si on en voit 3 ou 4, c'est pareil, c'est à ce micro, je crois qu'on disait. Ils envisagent même de partager les maisons, des choses comme ça. Et c'est sûr, c'est ce que nous avait raconté.
Ouais, pour créer un clan, parce qu'on sait que c'est compliqué de...
Colbert nous avait raconté, il avait passé une année affreuse entre Mall et Clubhouse. Tout seul, donc oui, s'il pouvait y avoir un petit groupe et s'il pouvait se te serrer les coudes un peu, ce serait fabuleux.
Est-ce qu'on sait pourquoi c'est compliqué pour les Français?
C'est compliqué pour les Européens. C'est compliqué pour les Européens. Colsart l'avait raconté, il n'est pas français, mais voilà, il était tout seul toute l'année, encore une fois, avec, il faut le reconnaître, un pays qui n'est pas toujours passionnant. Donc il a pas allé, comme il disait, au supermarché dans les malls, il n'y avait pas grand chose à faire.
Loin de sa famille, loin de ses proches, c'est plus un côté psychologique qui met en difficulté qu'un côté golfique.
Voilà, et après, quand vous avez fait vos études aux États-Unis, que vous êtes installé là-bas, c'est déjà plus facile. Et puis après, c'est sûr qu'il faut être assez individualiste parce qu'il n'y a quand même pas la même ambiance que sur le tour européen. Quoi.
Allez, en tout cas, résultat en fin d'année, messieurs, on va parler maintenant du Live Golf. Hein. Cette semaine, c'est la finale. La finale à Miami, à suivre d'ailleurs sur les antennes de Journal du Golf TV à partir de vendredi de 18h à minuit. Arnaud, cette finale du Live Golf, encore une saison qui s'achève. C'est une saison qu'a remportée Taylor Gooch en saison régulière. Là, la finale par équipe, ça s'annonce passionnant encore une fois, comme l'année dernière.
Le golf, encore une fois, c'est la formule la plus passionnante du livre quand même. Même s'il y a beaucoup d'argent, on n'est pas toujours d'accord, mais voilà, ça manquait peut-être un peu de hargne des joueurs. Là, au moins, on voit qu'en équipe, il y a beaucoup plus de hargne, c'est beaucoup plus disputé, c'est beaucoup plus.
Il faut moins semblant, enfin, quoi. Pas semblant, voilà. Mais on sent qu'il y a une
voilà,
vraie,
on sent que, on sent qu'il se passe quelque chose. Et c'est ce qu'on aime de toute façon dans le sport, et c'est ce qu'on aime dans le golf, c'est les émotions. Ben là, ce week-end, on va en avoir plein. Regardez Journal du Golf TV, on vous le conseille.
Et Jean-Pascal, créateur d'émotions, on l'avait dit.
C'est un vrai métier, un vrai métier.
45 ans, c'est ça.
Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Le Live Golf, cette finale par équipe, on le rappelle, le format du match play les deux premiers jours et le dernier jour en stroke play où tous les scores des joueurs comptent. Tout est, on va dire, le suspense est à son comble à chaque fois. Tu suis le Live Golf, c'est...
Ouais, je commence un petit peu à le suivre. Ben, là, ce qui est génial, c'est qu'on peut le suivre voilà, sur Internet gratuitement. Ça, c'est une option fantastique pour tous les golfeurs.
Sur Journal du Golf TV.
Et sur Journal du Golf TV, et j'invite tout le monde à le regarder parce que c'est vraiment un accès facile et, pour le golf et qui est agréable. Maintenant, je commence à le suivre et c'est bien qu'on retrouve ce côté un peu match play et le stroke play parce que c'est là où voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Ouais, je veux dire, heureusement que des fois il y a aussi des jeux, une formule un peu plus en simple, on va dire, en stroke play. Parce que si on regarde la dernière Ryder Cup, moi les deux premiers jours, ok, c'était super, mais bon, moi personnellement, je me suis un peu fait chier parce que les Européens, on les bouffait. Et heureusement qu'il y a le dernier jour pour dire, voilà, oh ils vont remonter, un peu d'excitation, quoi. Donc là, je pense que là, ça va être trois journées assez incroyables, quoi.
Avec évidemment l'équipe à battre, hein, les Four Aces, hein, qui dominent encore une fois le classement par équipe. Ça va être intéressant à suivre, messieurs. Je ne sais pas si vous avez vu aussi l'annonce du Live Golf avec un nouvel événement en décembre.
Ils ont racheté quelque chose.
Peut-être. En tout cas, ça va se passer à Abu Dhabi. Je sors ma petite fiche parce que oui. C'est un événement de promotion. Tenez-vous bien, parce qu'on le sait déjà que le vainqueur de l'Ordre du Mérite de l'Asian Tour des International Series, ouais, c'est un peu compliqué, décroche un ticket pour le Live Golf l'année d'après.
Okay. Mais il va y avoir des relégations.
Il va y avoir des relégations.
Et des joueurs qui vont devoir garder leurs cartes.
Exactement. Et donc, un événement, donc ça va se passer.
Et c'est ce que demande aussi le classement mondial pour...
Pour
attribuer des points. Donc, c'est pas mal, mais...
Alors, je vous décrypte ça, Arnaud, et on en parle
pardon,
après.
Pardon, excusez-moi.
Donc, ça va être un tournoi à Abu Dhabi, donc sur l'Abu Dhabi Golf Club, du 8 au 10 décembre avec...
Du
8 au 10 décembre avec trois tours. Ouais. Forcément, c'est du Live Golf. Avec le premier tour, au premier tour,
ils ont une main attachée dans le dos.
Le 6e et 32e des International Series de l'Ordre du Mérite qui vont.
Ah non, vous n'allez pas tout nous faire là.
Je vous fais en gros.
Ah bon.
Les vainqueurs des différents trophées amateurs, donc US Amateur, British Amateur, etc. Le top 200 mondial, le top 20 amateur mondial. Donc ça, c'est pour le premier tour. Donc là, le top 20 est qualifié pour le deuxième tour.
Ouais.
On va retrouver dans ce deuxième tour ceux qui ont été relégués de la saison du Live Golf.
Oui.
Vous suivez, hein.
Ouais, à peu près. C'est ceux qui ont créé les règles de golf qui ont créé ça aussi. Non, c'est le bordel.
Exactement. Les vainqueurs de tous les tournois du PGA Tour de cette année et du DP World Tour.
Oui.
Les vainqueurs de majeurs depuis 2018, ça ratisse large. Les joueurs de Ryder Cup et de President's Cup.
Vous avez endormi tout le monde, là, Jean-Pierre.
Et enfin, le du 2 à 5 des International Series.
Donc en fait, qui joue pas, ça ira plus vite, qui joue pas.
Là,
ils peuvent venir, mais il n'y en aura pas beaucoup qui vont venir.
Là, on fait un deuxième tour. Donc ceux-là, le top 16 est qualifié pour le dernier tour. Et là, dans ce dernier tour...
Personne n'a compris.
Il est joué 36 trous.
Vous qui nous regardez, le replay est disponible. Le replay va être disponible.
36 trous, et attendez, à la fin, il n'en restera qu'un.
Oh,
il en restera 3 à la fin, et ces 3 gagneront leur spot pour la saison 2024 du Live Golf.
Ouf. D'accord. Alors moi, j'ai une question qui va être beaucoup plus simple par rapport à tout ça. En étant sérieux, 3 minutes. Est-ce que le fait qu'ils aillent sur le Live, parce que je sais que maintenant le Live a été englobé à LPGA, etc. Est-ce que ça pose pas de problème pour certains qui vont aller sur le Live de revenir par exemple sur l'Asian Tour ? Est-ce qu'il y a des accords ?
Avec l'Asian Tour, il n'y a pas de souci. Théoriquement, avec la fusion Tour DP World Tour,
on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est pas fait. Pour l'instant,
c'est pas fait.
Non, il n'y a pas grand monde qui va y aller, moi, si vous voulez mon avis. Quand vous voyez encore une fois Taylor Gooch qui est rentré, il était quoi, 30e mondial quand il est arrivé sur le Live, et là, il est 200e mondial. Alors qu'il a joué, bon, d'accord, il a pris un paquet de pognon, mais il va jouer aucun majeur l'année prochaine. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de monde.
C'est-à-dire que là,
il n'y a que Thomas Peters qui a été cette année. Hein. Ils ont quand même bien bloqué tout le monde avec cette histoire de points mondiaux. Il n'y a plus grand monde qui y va. De toute façon, on va bien voir.
Imaginez qu'un joueur du top 200 mondial se qualifie, ça peut lui changer aussi quand même.
Ah oui, dans l'autre sens, ça peut aider, ça je suis entièrement d'accord. Mais je crois que voilà, au niveau des points qui ont été refusés, parce qu'on pouvait, gagner des points, je crois, sur le Live, et ils ont dit non finalement, les points ne sont pas valables. C'est encore un peu compliqué tout ça. Et c'est, je trouve, moi, c'est ce qui est un peu embêtant en fait.
Ouais,
parce qu'on pourrait le regarder avec plus de.
Et là, c'est un peu, ça devient plus un peu de la guéguerre de 6e au collège. C'est chiant, quoi.
J'espère qu'on l'aura, ce tournoi, parce que ça va être quand même excitant.
Bah, de voir les différents joueurs, oui. Est-ce qu'on peut espérer voir un joueur français, un joueur du top 200 se qualifier?
Ça serait chouette, hein. On verra.
Ça serait bien.
On verra.
Allez, messieurs, on verra évidemment tout ça. On vous rappelle la finale du League Golf à suivre sur les antennes de Journal du Golf TV, sur Free, canal 187, sur la B-Box, canal 193, de 18h à minuit pour ce dénouement avec Guillaume Biogeau, qui d'ailleurs sera sur place pour Journal du Golf TV. Messieurs, je vous propose tout de suite de parler de Lexi Thompson. Lexi Thompson qui a joué sur le PGA Tour, qui s'est bien défendu, notamment le deuxième jour, en postant une carte de moins 2, mais ça n'a pas suffi pour passer le cut. Dommage.
Logique? Bah, logique et dommage, les deux. On sait qu'à part Babsa Arias en 1945, alors que Nika Sørenstam a essayé, Michel Houille a essayé plusieurs fois, jamais une femme n'a passé le cut, donc c'est logique. Mais c'est dommage parce qu'elle était à un point du cut sur le retour. Elle fait deux bogeys sur les par 3 malheureusement au retour. Donc elle est quand même passée tout près d'un exploit retentissant. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas trop l'utilité. Moi, je trouve ça absolument... c'est top. Ça a mis un coup d'éclairage à ce tournoi comme jamais. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à Lexi Thompson pour sa carrière aussi à elle. Et pourquoi pas aussi au golf féminin qui va pouvoir aussi se mesurer. Enfin, qui va récupérer une Lexi Thompson peut-être plus motivée que jamais, plus forte que jamais. Donc moi, je trouve ça super bien. Il ne faut peut-être pas faire ça chaque semaine. Il faut que ça soit un peu exceptionnel aussi pour qu'on ait envie. Il faut aussi que la joueuse joue bien. Parce que c'est sûr que si elle fait 2,78 et qu'elle n'existe pas, on va se moquer d'elle, on va dire que ça n'apporte rien. Là, elle était quand même, encore une fois, à un point du cut. C'était quand même assez sympa à suivre.
Est-ce que tu as suivi un petit peu ce...
Oui,
en cherchant dans le leaderboard Lexi Thompson,
peu, on est un petit peu les ambassadeurs de la même marque. Donc j'étais obligé... Non, c'est pareil. J'aime beaucoup Lexi Thompson. Et j'ai été même surpris... Selon la logique, je suis d'accord pour qu'elle passe le cut, ça aurait été. Mais c'est quand même une sacrée joueuse de golf, quoi. Parce que moi, je trouve ça vachement bien qu'il y ait des femmes avec les hommes. Je trouve ça bien parce que moi, je trouve que le swing des femmes est magnifique. Je trouve que c'est pur. Moi, je regarde le golf féminin. J'aime bien. Je trouve que c'est carré. Voilà, moi, j'aime bien. Et je pense le fait de mélanger aussi un peu, ça peut être chouette. Je vois. Alors, il y en a qui vont me dire, oh là, mélange pas. Je pense de temps en temps, c'est chouette. Et non, je pense qu'il pourrait y avoir des surprises en plus.
Surtout qu'en Suède, il y a un tournoi co-sanctionné sur le tour européen homme-femme. Là, les femmes ne partent pas des mêmes boules.
Qui avait gagné Lindgren d'ailleurs.
Voilà, on peut râler parce que ça ne part pas des mêmes boules. C'est toujours pareil. Comparer, c'est compliqué.
Oui,
là, Lexi Thompson, elle est partie du même départ que
c'est
les hommes.
Ça,
donc là,
c'est ça.
Il n'y a rien à dire. Ouais. Voilà, elle est à armes égales avec les autres.
Et elle était vraiment pas loin.
Et elle était vraiment pas loin.
Est-ce que vous avez suivi la victoire de Tom Kim également, ce joueur
Ouais, mais c'était long là.
Ouais, bah oui, PGA Tour.
Non, mais qu'est-ce qu'il est long, mais il est génial ce type, mais qu'est-ce qu'il est long, non, mais c'est un scandale. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai eu la chance de jouer le Lacoste avec les filles.
Lacoste Ladies.
Qu'est-ce que c'est long, et je pense que le PGA Tour, comme c'est le tour le plus regardé, tout le monde regarde, y compris les joueuses professionnelles, et elles deviennent toutes, mais alors avec ces histoires de
endpoint
là, marcher sur les... Non, mais... c'est bon,
ah, moi
quoi,
je fais là. Comme ça aussi.
Non mais Tom Kim, il un putt de 15 mètres, il passe je sais pas combien de temps là à marcher sur ça.
Mais est-ce qu'il l'a mis le putt de 15 mètres?
Mais non, il a pris 3 putts en plus.
Ah là là, sacré Tom.
Non mais c'était qui Graham Bradley ou je sais plus quoi qui avait un putt de 1 mètre là qui reste pendant. Et évidemment, il passe un mètre de l'autre côté. Non mais
normalement, il y a
insupportable.
Il y a un règlement au niveau timing.
Ben oui, mais il y a rien du tout sur le PGA Tour. Ils sont contents, ils passent de la pile. C'est insupportable. Moi, je n'en peux plus de regarder ça. Et surtout, tout le monde le fait maintenant, en plus dans tous les clubs, dans tous les.
Eh bien, il est là, Tom.
C'est bon quoi. Il a...
Jean-Pascal, tu bats aussi contre le jeu lent. T'es un joueur qui.
Moi, j'essaie de respecter le jeu. Il y a un règlement. Moi, c'est ce que je te disais. Moi, je suis assez protocolaire. Il y a des choses à respecter au golf. Il faut le faire. Si on cherche à balle, c'est 3 minutes. Moi, je vais prendre mes lignes. Alors, moi, je vais aussi marcher pour sentir le sens de pente, mais j'y vais. Je sens, hop, je fais le tour. J'essaie de. Parce qu'en plus, j'ai besoin d'un rythme. Moi. Donc, si on attend. J'essaie de. Il faut avancer. Après, c'est du sport. Hein. Si on doit aller au bridge, ça se passe au clubhouse. Quoi. Donc, moi, je... non, mais c'est. Voilà. Je veux bien que les gens aient une. Il faut une routine. C'est normal, etc. Au bout d'un moment, on n'est pas là pour enfiler des perles non plus. Quoi. Voilà. C'est...
Allez, messieurs, je vous propose d'écouter un petit extrait sonore et après, on en reparle. Est-ce que vous reconnaissez cette voix?
Ah oui, évidemment qu'on reconnaît cette voix. Et on sait pourquoi vous l'avez passée, malheureusement.
Ouais, Ivor Robson, hein, qui est décédé, qui nous a quitté, qui était une des voix mythiques du Tour européen, qui s'était mis un peu en retrait ces dernières années. Voilà, on l'entendait à chaque fois, surtout au British Open également. C'était une voix célèbre.
Le nombre de joueurs qui ont lui rendu hommage, c'est assez impressionnant quand même. Hein. C'était, de toute façon, je pense qu'en plus, c'était quand même la voix la plus connue du golf, notamment en Europe. Et quand vous êtes, quand vous jouez The Open et qu'il y a Ivor Robson qui annonce votre nom, oui, c'est sûr que vous devez avoir des frissons, surtout que vous l'avez vu à la télé avant. Enfin, donc oui, il a marqué toute une génération de joueurs et malheureusement, il est décédé cette semaine.
Une petite réaction, Jean-Pascal. Est-ce que tu as eu affaire à lui, non,
il a... Non, mais je me rappelle moi de la voix, même avec, ça fait pas 10 ans que je joue au golf, mais la voix, je l'ai en tête. C'est un peu comme la voix à la boxe, la personne qui annonce, là, je ne me rappelle plus, il y a une voix qui parle très vite en annonçant les boxeurs. Voilà, il y a des voix comme ça qui marquent. Bon, mais voilà, c'est une page qui se tourne, mais les hommages étaient assez importants. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on sait qui va le remplacer ?
Alors, c'est peut-être un peu rapide ce que je dis, mais... Il avait déjà été remplacé, hein, Ivor Robson. Alors, je ne sais pas le nom.
Mais est-ce que ça va rester ? Voilà, c'est cette personne-là qui va... Parce que c'est important, une voix.
Après, il faut un certain style aussi.
Ouais, je suis d'accord. C'est un vrai.
Il va être dur à égaler, c'est sûr.
Oh, de toute façon, il ne sera jamais égalé, je pense. Il y aura de la nouveauté, mais ça ne sera jamais égalé.
Messieurs, voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition de ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir accompagné.
Avec plaisir. Et, en plus, le téléphone a sonné, donc on est invité, à bouffer. C'est super.
Jean-Pascal, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous. Merci
on se retrouve très prochainement dans une émission qu'on a concoctée avec toi, qui s'appelle Golf Story, où tu nous parles justement de... La première du genre, où tu nous parles de ta passion du golf, de ce qui t'anime, des petites anecdotes. C'est très croustillant, en tout cas.
C'était très chouette. Ouais. À refaire.
Ouais. Et en tout cas, restez bien à l'écoute et sur les antennes de Journal du Golf TV. Merci beaucoup. Salut.